Je vous salue là où vous êtes, où que vous soyez, à la maison ou dans votre véhicule. Pendant ces jours, nous célébrons la Pâque, une célébration de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous, en tant que croyants, nous nous rappelons de ces moments, cette fête de Pâques. Et même pendant ces moments de crise avec la contamination du coronavirus où nous sommes, qui nous sépare les uns des autres, où que nous soyons. Et j'aimerais lire un passage que le pasteur Stegen avait lu en 2014. Il s'agit du roi Salomon lorsqu'il a prié et Dieu a répondu et le feu est descendu et la gloire de Dieu a été révélée parmi eux. Mais avant cela, prions ensemble. Notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, nous te prions que tu puisses être avec nous là où nous nous trouvons. Puissions-nous entendre ta parole et que nous puissions entendre te parler, nous parler. Nous trouvons cette parole dans 2 Chroniques 7. Et nous allons lire un certain nombre de versets qu'il a lus à cette époque. Et tout particulièrement pendant cette pandémie, lorsque j'ai ouvert la Bible et que j'ai lu ce verset, je me suis rappelée de ce moment où le pasteur Stegen nous l'a lu en 2014. Nous le trouvons donc 2 Chroniques 7, verset 12. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit : J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux eaux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Dans ce passage, nous lisons que Dieu dit « J'ai entendu ta prière, Salomon. » Et après que Dieu ait entendu sa prière, ils se sont abaissés devant lui. Et ainsi, si nous également nous nous abaissons, nous agenouillons devant Dieu et nous nous repentons, Dieu va nous entendre et guérir notre pays. Quelle que soit la maladie, si nous crions à Dieu, si nous nous repentons de nos attitudes méchantes, Dieu va entendre nos prières et il va jeter ses regards sur nous. Alors laissez-moi vous dire cela, mes frères et sœurs. Nous ne devrions pas prendre Dieu comme notre pneu de secours. Juste quand on en a besoin, on dit « Ah, au fait, est-ce que j'ai une roue de secours ?» Nous ne devrions pas simplement prier à Dieu lorsque nous avons un problème, mais nous devrions continuellement prier à Dieu en continuité. Parce que certaines personnes, il n'y a que lorsqu'ils se retrouvent dans une situation de crise qu'ils regardent s'ils ont une roue de secours, et peut-être qu'ils découvrent que la roue n'est pas pompée. Il n'y a pas d'air à l'intérieur ou qu'il n'y a même plus de roue de secours. Et même lorsqu'une personne prie, dans la langue zoulou, l'esprit ou l'air, c'est le même mot en zoulou. Et donc, la personne se rend compte qu'elle n'a plus cet esprit et n'a plus cet air qui est nécessaire. Donc, nous devons prier à Dieu que les choses aillent bien ou que dans les moments difficiles, ou même lorsqu'il dit quand il n'y aura point de pluie, ou quand il y aura des sauterelles dans le pays, ou qu'il enverra la peste, il dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. » Certaines personnes ne prient Dieu que lorsqu'ils se trouvent dans une situation difficile, alors que nous devrions sans cesse prier Dieu. Ici, nous entendons Dieu qui dit « Mes yeux seront ouverts et seront attentifs à vos prières. » Nous ne devrions pas seulement prier Dieu lorsque nous sommes malades, comme certains le font, ou parce que certains se trouvent dans une situation compliquée, alors ils se mettent à prier. Non, nous devrions prier dans n'importe quelle circonstance, et Dieu devrait être attentif à notre supplication et ouvrirait ses yeux. Lorsque Salomon a terminé de prier, le feu est descendu du ciel et la gloire de Dieu a rempli le temple et les hauts prêtres étaient tellement impressionnés. Dieu dit qu'il peut commander les sauterelles pour consumer le pays, qu'il peut fermer le ciel à la pluie et qu'il peut envoyer des pestes parmi son peuple. Dans certaines parties de notre pays, nous avons expérimenté des sécheresses où les gens n'avaient vraiment plus d'eau. Et maintenant, nous voyons que cette pandémie englobe le monde entier, la terre entière. Et pendant ces moments, nous devons crier à Dieu en disant « Oh Seigneur, aie pitié de nous, sois attentif à nos prières et et nous devons également venir à Dieu en confessant le péché de nos ancêtres, de nos ancêtres, des personnes qui sont venues avant nous, comme beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible l'ont fait. J'ai été si touchée pendant ces derniers jours lorsque beaucoup de nos différentes branches priaient et appelés pour confesser leurs péchés. Mais pour certains, c'est complètement sombre. Ils sont aveuglés, même s'ils confessent leurs péchés. Même si d'autres confessent leurs péchés, pour eux, c'est obscur, ils ne le font pas. Et tu devrais te poser la question, comment est-ce que je peux avoir les numéros de téléphone de ces conseillers pour que moi aussi, je puisse aussi appeler. Et donc, cette parole était simplement pour une introduction. Alors, nous allons tourner nos Bibles, notre lecture dans Matthieu 26. Verset 57. Donc, Matthieu 26, 57. Nous lisons. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent « Celui-ci a dit « je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours ». Lorsque nous lisons ce passage, nous voyons qu'ils voulaient faire un complot contre Jésus et trouver des témoins qui pouvaient et finalement, ils en ont trouvé deux qui ont dit ce. Et lui dit, celui-ci dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble ?» Imagine ce grand leader qui devait savoir bien mieux. Quand il a entendu que Jésus disait qu'il était le Fils de Dieu, il a déchiré ses vêtements. Là-dessus, ils répondirent, « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Regarde à toute cette moquerie. Ils ont abusé de lui, ils l'ont frappé en disant, « Dis-nous qui t'a frappé. » Ceux qui marchent avec Christ, on se moque. Toi, jeune fille, mère, père, veuve, qui que tu sois, ne sois pas étonnée si les gens se moquent de toi lorsque tu marches avec Christ. Et lorsque tu prêches le vrai évangile de Jésus-Christ, beaucoup vont se moquer de toi. Il y a certains qui vont dire, regarde comme il prêche, regarde à la façon dont lui ou elle témoigne. Ils vont dire, regarde à cette personne, elle a ceci, cela, pourtant, et en même temps, cette personne est proche de Christ, de Dieu. Et lorsque nous lisons sur Pierre, on se rend compte que ce que Jésus avait dit sur lui s'est accompli. Verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit : Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant : Je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là : Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment : Je ne connais pas cet homme. Il le nia de nouveau avec serment : Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre : Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Voyez, si vous marchez avec Jésus, vous ne pouvez pas le cacher. Où que vous alliez, les gens vont vous reconnaître. Et juge de la façon dont vous parlez, les gens sauront que tu marches avec Christ. Pense à cela, même ton accent te trahit, tu es sûrement l'un d'entre eux. Ne sois pas étonné si les gens te disent : Où est-ce que tu, église, tu vas ? Dans quelle église tu vas ? Et tu vas leur demander pourquoi ? Ils vont te dire : Mais parce qu'on peut, on peut le voir. Et immédiatement, il est dit que le coq a chanté. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite : Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Pierre a fait quelque chose de très grave, de très sérieux ici. Lorsqu'il s'est rappelé des paroles de Jésus qui ont dit que tu vas me renier trois fois. Il a pleuré amèrement. Si tu as péché contre Dieu, tu dois crier à Dieu, pleurer sur ton péché et Dieu va entendre. Tu dois pleurer sur ton péché et aller vers un enfant de Dieu et admettre : J'ai péché contre Dieu. Et Dieu va t'entendre. Un peu plus tôt auparavant, Jésus a dit : je prie pour toi que tu ne vas pas me chuter. et que ta foi va être forte. » Mais il savait déjà que Pierre allait tomber. Le péché ne peut régner dans la vie d'un enfant de Dieu. Lorsque tu viens vers Dieu et tu confesses et que tu dis, tu pleures et tu dis « j'ai péché », tes pleurs devant Dieu. Et Dieu sera attentif à ta prière et il ouvrira tes yeux comme nous l'avons lu auparavant. Alors continuons avec le chapitre 27. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Ils avaient comploté de tuer Jésus. Ils se sont rassemblés pour comploter, pour voir comment ils pouvaient le mettre à mort. Et les gens peuvent se rassembler et comploter contre toi, comment ils peuvent arriver à t'attraper. Mais si tu es un enfant de Dieu et tu restes dans le Seigneur Jésus-Christ, quoi qu'ils peuvent comploter, leur plan ne pourra s'accomplir. Nous ne renions pas qu'une personne peut mourir et que cela peut effectivement se passer si Dieu le permet. Mais même pendant ces moments, pendant que les gens louaient Jésus en disant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », le haut sacrificateur déjà complotait pour savoir comment le tuer. Alors Judas, verset 3, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde ». Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est les prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Judas Iscariote a dit « J'ai péché ». Mais lorsqu'il a dit « J'ai péché », sa façon de le dire était différente. Parce qu'après cela, il s'est pendu. Au lieu de dire « j'ai péché, j'ai besoin du pardon de Dieu », comprenez-moi. Parce qu'une personne peut dire, ah, tu sais quoi, j'ai commis un meurtre, j'ai volé, j'ai cambriolé des maisons, j'ai qu'à me suicider. J'ai eu tellement d'avortements, il vaut mieux que je me tue. Ce type de remords n'apporte aucun salut et n'apporte pas le pardon. S'il avait dit, vous savez, j'ai péché, j'ai vendu le Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de pardon, et alors je regarderai les choses d'une façon différente. J'aurais vu les choses complètement différemment et j'aurais sûrement compris si Judas avait dit « J'ai vu les miracles de Jésus, j'ai vu tout ce qu'il a fait et par-dessus tout cela, je l'ai vendu pour quelques pièces d'argent. » Mais si nous lisons la Bible, nous pouvons lire que Satan est rentré dans le cœur de Judas et les autres disciples sont restés en arrière. Mais Satan était rentré complètement à l'intérieur du cœur de Judas. Vous savez, lorsque Satan rentre dans ton cœur, il prend contrôle de ta vie et il peut faire ce qu'il veut avec toi. Il en est de même avec Caïn et Abel lorsqu'il a tué son frère. Satan l'a attrapé dans ses griffes. Avait attrapé Caïn et il avait pénétré et à cause de cette jalousie, il a tué son frère, son propre frère. Alors regarde à Judas. Juste pour un peu d'argent, pour une question d'argent, il se détourne de Jésus et le trahit et le vend pour de l'argent. Oh, que Dieu puisse nous faire grâce. Et ainsi, si nous lisons à nouveau verset 5, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. Même eux ont reconnu que c'était le prix du sang. Alors on va devoir passer un peu plus à cause du temps. On arrive au point où il se retrouve devant Pilate parce que c'était le moment de l'année où Pilate délivrait un prisonnier à cette époque de l'année. Et alors Pilate a demandé aux gens, qui est-ce que vous voulez que je livre devant vous, Barabbas ou Jésus-Christ? Parce que la femme de Pilate avait eu un rêve. Et elle a dit, je suis troublée par rapport à cela, j'ai eu un rêve. Aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Et elle a dit ce message à Pilate. Et on est arrivé au point où Pilate a lavé ses mains de cette histoire. Et alors Pilate a dit, qui est-ce que vous voulez que je libère? Et ils ont tous répondu, Barabbas. Barabbas était si content et Christ était crucifié. Aujourd'hui, nous vivons dans un pays libre, mais c'est ce type de liberté où les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est le type de liberté que Barabbas a reçu. Si tu veux aller au lit, si tu veux t'endormir sans prier, personne ne va te demander si tu l'as fait. Si tu veux regarder à ton portable, regarder à des pornographies, la pornographie, si tu regardes sur Internet à la pornographie, qui c'est qui va te demander et te dire que c'est mal? Et si toi, en tant que jeune femme, jeune homme, tu veux vivre d'une façon immorale et coucher n'importe où, qui te dira que c'est mal? Tu es libre de rentrer dans un bar et personne ne te dira rien là-dessus. Et ce type de liberté, c'est ce type de liberté qui crucifie notre Seigneur Jésus-Christ toujours à nouveau. Si toi, en tant qu'enfant de Dieu, retournes à ton péché, tu crucifies le Seigneur Jésus à nouveau. Et si tu retournes à ton péché, par cela, tu prends la même état d'esprit et tu dis toi aussi également, je libère Barabbas et je crucifie Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être tué à travers la vie que je vis. Et peut-être que par la vie que je vis, je dis, Jésus doit être crucifié, il doit mourir. J'aime le fils prodigue lorsqu'il dit, je retournerai vers mon père et je dirai, Père, j'ai péché. Prenez sérieusement ce que je dis. Il n'a pas dit, je retournerai vers mon père et je lui dirai, Père, le diable m'a attrapé. Et le diable m'a fait faire ceci et cela. Il n'a pas dit cela. Et lorsque Jésus a confessé son péché, lorsque David était sur le mur, il n'a pas dit, oh, j'étais sur ma terrasse et le diable est venu me faire tenter. Et le fils prodigue a dit, je retournerai vers mon père et je lui dirai, j'ai péché. Si souvent je dis aux gens, si le diable avait un frère, ce frère se tiendrait. Et dirait, ah, se tiendrait pour son frère et dirait, ah, tu blâmes mon frère pour n'importe quoi. Il te dirait, tu es sans arrêt en train de le blâmer, mais c'est toi qui es si faible, c'est toi qui es si pervers et qui est rempli de corruption. matière également n'a pas dit « Ah, j'ai renié Jésus trois fois, c'est le diable qui m'a tenté. » Non, il a pris la responsabilité pour le péché qu'il avait commis. Il était rempli de remords. Il y a un cantique que les luthériens aiment chanter qui dit « Vois la fontaine de sang, lave-toi dans cette fontaine. » Cette fontaine qui vient du Seigneur Jésus. Cette fontaine est si grande, elle vient du Seigneur Jésus-Christ. Toi aussi, pécheur, tu es également invité à te purifier par cette fontaine. Cette fontaine est là, elle ne s'assèche pas. Ils pensaient qu'ils étaient arrivés à la fin de Jésus, ils l'avaient attrapé, ils l'ont crucifié et l'avaient enterré et que c'en était de la fin, que l'histoire était finie. Mais je ne sais pas si Marie, lorsqu'elle a entendu qu'elle allait porter un enfant qui s'appellerait Jésus, je ne pense pas qu'il ait dit que cet enfant allait être crucifié. Et Marie a dû passer par des choses qu'elle n'aurait jamais rêvé passer au travers de ces choses. Lorsque le sang de Jésus-Christ a été répandu et a coulé pour nos pécheurs, mais c'est par ce sang que nous pouvons recevoir la rémission de nos péchés, le pardon de nos péchés. Et alors, c'est ainsi que ce cantique se chante. Si tu as trouvé ce sang de Jésus-Christ et tu t'es lavé dans cette fontaine, ensuite tu te ressens si pur. Si propre. Te rappelles-tu du jour où tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ et que tu as donné ta vie pour lui, ne te rappelles-tu pas comment c'était beau, la grande joie que tu as eue quand tu as reçu Jésus-Christ? Je me rappelle, lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur Jésus et qu'il ne savait pas qui, les disciples, il ne savait pas qui il était. Et certains ne l'ont pas reconnu. Et après, ils lui ont demandé, mais reste avec nous parce que le soleil se couche. Ils étaient perplexes. Et lorsque Jésus leur a demandé de quoi vous parliez, de quoi il parlait, il a dit, reste avec nous parce que c'est le soir. Et donc Jésus est entré avec eux dans la maison, il a mangé avec eux et il a disparu. Alors, écoute ce qu'ils ont dit ensuite, ils ont dit, notre cœur n'était pas réchauffé en sa présence. Nous devons avoir nos yeux ouverts pour reconnaître Christ et reconnaître Christ à l'œuvre en nous. Nous devons avoir des yeux ouverts afin que nous puissions discerner celui qui prêche. Ce n'est pas le prédicateur qui est devant, mais c'est celui qui prêche au travers lui. Non pas que tu vois c'est un homme noir ou un homme blanc ou métis ou indien, mais que tu puisses voir Jésus qui parle. Afin qu'il puisse ouvrir nos yeux et que nous puissions reconnaître c'est le Seigneur Jésus qui y œuvre au travers de cette personne. Vous pouvez continuer à lire dans Luc 24 et ses versets à partir de verset 29 et plus, verset 40 et 45. Et à un autre moment, le Seigneur s'est révélé à eux et ils ne l'ont pas reconnu. Et ensuite, il est dit, il a ouvert leurs pensées. Imagine, leurs pensées étaient aveuglées. Ils n'avaient pas vu que c'était Jésus. Leurs pensées étaient fermées. Ils n'ont pas compris que c'était l'action de Dieu. Alors, laissez-moi revenir aux disciples qui marchaient avec Dieu. Ils l'avaient connu depuis des années, mais à ce moment-là, alors qu'ils marchaient avec lui, leurs yeux étaient fermés, ils ne l'ont pas reconnu. Notre pensée et nos yeux peuvent nous jouer des tours, nous troubler. Parce que nous sommes humains, nous pouvons faillir à reconnaître ce qui est de Dieu ou qui ne l'est pas. Et nous avons été tous mis dans cette même casserole. Pourquoi? Ici, il y a cette maladie qui traverse la planète entière et personne n'est épargné. Et au travers de cela, ne devrions-nous pas nous rapprocher encore plus de Dieu? Comme lorsqu'il s'est passé un tremblement de terre, et ce tremblement de terre s'est passé lorsque Jésus est ressuscité. Même les morts se sont relevés de leur tombe. Ceux qui ont vécu pour Dieu se sont relevés ce jour-là, qui avaient vécu pour Dieu. Et j'étais étonnée lorsque je l'ai lu à nouveau. Regarde comment c'est merveilleux, lorsqu'il est ressuscité, les autres se sont relevés avec lui. Frères, sœurs, si tu es encore endormi, alors réveille-toi. Réveille-toi de ton sommeil. Sois réveillé, ne sois pas comme les disciples qui étaient endormis. Nous devons nous réveiller. Ce ne sont pas des jours où nous devrions, des moments où nous devrions être endormis spirituellement, nous devrions être en alerte et réveillés pendant ces jours, nous devons retourner à Dieu et nous repentir de nos mauvaises voies et crier à notre Dieu au ciel qui puisse entendre et être attentif à nos prières si nous nous détournons de nos mauvaises voies. Et non pas que Dieu soit notre roue de secours et que nous l'utilisons quand nous en avons besoin et puis nous l'oublions ensuite. Mais Dieu doit faire partie de notre vie et nous devons toujours être sûrs qu'il est là lorsque, comme une roue de secours doit être toujours pompée bien sous pression. Dieu, pendant ces jours, travaille de sa propre façon. Et il en tient à nous de voir si nous allons veiller et faire attention à ce qu'il nous dit. Sommes-nous en communion avec lui, en contact avec lui d'une façon quotidienne? Prions. Ô Dieu, notre Dieu, trois fois saint, pendant ces moments, Seigneur, nous avons besoin de toi, afin que nous puissions nous repentir de nos mauvaises voies, là où nous devons nous repentir, que nous puissions nous détourner de nos mauvaises voies. Et pendant ces jours, nous nous rappelons de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où il pensait qu'ils en avaient fini avec lui et qu'ils avaient mis une grosse pierre devant sa tombe. Mais Seigneur, par ton pouvoir de résurrection, tu es ressuscité de ce tombeau. Et toi également, s'il y a une grosse pierre qui se tient devant nous, tu peux venir et la pousser, l'enlever. Seigneur, personne n'a besoin de dire qui roulera la tombe pour nous, la pierre. Parce que Seigneur, tu es mort et tu t'es relevé et nous pouvons venir vers tes enfants et tu pour prier et tu enlèveras cette pierre. Amen.